Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h. Au sommaire ce soir, la finale du championnat du monde de handball. Les Françaises sont menées 22 à 29. Il reste quelques minutes à jouer. Et à l'instant, les Françaises battues en finale par la Norvège sur le score de 22 à 29. Nous irons tout de suite dans un instant au palais Omnisport de Granollers en Espagne. L'épidémie de coronavirus, la prolongation des vacances scolaires n'est pas l'hypothèse privilégiée, assure Jean-Michel Blanquer, l'urgentiste. Patrick Peloux alerte, l'hôpital est en train d'être paralysé. La question du pass sanitaire au travail sera abordée demain au ministère du Travail entre Elisabeth Borne et les partenaires sociaux. Et ce soir, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, déclare qu'il n'est pas envisagé de modifier le calendrier ou les modalités de l'élection présidentielle. Un an de mystère et une marche blanche en hommage à Delphine Jubilard. Les amis et les proches de l'infirmière de 33 ans disparue il y a un an réclament la vérité. Amy, une amie de Delphine Jubilard.
Quand est-ce que ce cauchemar va finir? Nous voulons la vérité. On n'a pas le droit d'enlever une maman à ses bébés. Briser le cœur de deux enfants comme ça, comment peut-on être indifférent?
Dans ce journal également, une vidéo sur Twitter qui provoque la colère de l'armée. Un véhicule Vigipirate fait des dérapages dans la boue à proximité d'un camp de migrants et la majorité qui veut simplifier le changement de nom de famille. Vos rendez-vous dès 19h, la page sport avec, en plus du handball et la défaite des Françaises, des podiums pour le biathlon français. Et en fin de journal, on entendra deux fanas des décorations de Noël. Leur maison et leur jardin attirent tous les regards. La météo éclaircie au sud, plutôt gris sur la moitié nord. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 19h30, les petits bateaux Louel Bréham.
Bonjour, je m'appelle Bastien, j'ai 5 ans et je voudrais savoir si les oiseaux ont des oreilles et un nez. Merci.
Les petits bateaux après ce journal.
France Inter.
Et on retrouve Jean-Pierre Blimeau au championnat du monde de handball à Granollers en Catalogne, en Espagne. Bonsoir Jean-Pierre. Voilà, l'incroyable doublé. L'incroyable doublé ne s'est pas produit. Les Françaises battues.
Oui, battues et extrêmement triste parce qu'on pensait que cette finale avait bien démarré. Et elle a bien démarré car les Françaises, à qui tout réussissait en première mi-temps, ont réussi à creuser un écart très conséquent face à l'équipe de Norvège. Elles menaient de 6 buts à quelques minutes de la pause, de 4 buts à la mi-temps et ensuite tout s'est écroulé, les Norvégiennes sont revenues et sont passées largement devant une équipe de France qui était méconnaissable. Peut-être qu'elle s'est vue championne du monde à la pause. En tout cas, le score final, c'est 29 à 22 pour l'équipe de Norvège qui est en train de faire la fête là devant ses supporters. Alors que je vois des Françaises qui sont en train de pleurer. Certaines d'entre elles sont réconfortées, notamment les nouvelles. Hein. Alicia Toublan devant moi qui est réconfortée par Béatrice Edwige. Mais c'est vrai qu'on se demandera longtemps comment cette équipe de France a fait pour perdre ce match, comment ce match a pu échapper au tricolore. C'est peut-être un cauchemar qui va hanter à la fois les joueuses et le staff pendant de nombreuses années.
Merci Jean-Pierre Blimeau. On vous retrouve dans la page de sport de ce journal. Les champions olympiques battus en finale du championnat du monde. On en vient à l'épidémie de coronavirus et la déferlante Omicron qui arrive par le nord de l'Europe. À quelques jours de Noël et à peine les vacances entamées, Jean-Michel Blanquer écarte l'idée d'une prolongation des vacances scolaires pour freiner les contaminations. Hypothèse non privilégiée, explique le ministre de l'Éducation nationale. Un tel cas de figure, selon Jean-Michel Blanquer, ne serait décidé qu'en dernier ressort. Mais les pressions pour prendre des mesures sanitaires plus strictes sont de plus en plus fortes. Le Conseil scientifique a appelé vendredi le gouvernement à instaurer des restrictions significatives. Et ce soir, Patrick Peloux, président de l'Association des médecins urgentistes de France, alerte sur la situation dans les hôpitaux. Cela va très mal.
Le système de santé est en train d'être paralysé. Moi, je rejoins l'interpellation qu'a eue Jean Castex en disant « il y a une problématique de citoyenneté » parce que je vous le dis, 75% à 80% des malades Covid en réanimation sont des malades non vaccinés. Les 20% qui restent sont des malades très spécifiques qui ont des immunosuppresseurs, notamment pour les greffes d'organes. Donc, on a...
Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont vaccinés qui sont en danger ce soir pour d'autres pathologies.
Pour d'autres pathologies. Bien sûr, moi ça m'est arrivé vendredi, un monsieur qui est vacciné, qui fait son infarctus, nous n'avions pas de place pour le prendre en charge en cardiologie sur Paris, parce qu'on a fermé des lits de cardiologie pour prendre les malades Covid qui sont non vaccinés. Il est évident qu'il faut nous donner les moyens à l'hôpital pour fonctionner, or on n'a plus les moyens de fonctionner à l'hôpital.
Patrick Pelou ce soir sur France Info alerte aussi sur un risque de reconfinement et pour l'éviter, il faut, dit-il notamment, rendre le pass sanitaire obligatoire en entreprise. Et la question de ce pass travail sera abordée demain lors d'une réunion entre Elisabeth Borne et les partenaires sociaux. La ministre du Travail explique que rien n'est tranché. Il faut d'abord, dit-elle, recueillir l'ensemble des points de vue. Mais ce pass sanitaire au travail pourrait obliger les employeurs à contrôler leurs salariés et la mesure passe mal auprès des patrons. Réponse de Patrick Martin, le président délégué du MEDEF.
D'une certaine manière, l'État reporte sur les chefs d'entreprise une décision ou des mesures qu'il ne veut pas prendre lui-même à titre général, c'est-à-dire l'obligation vaccinale. En l'état, pour les secteurs qui sont soumis au contrôle, le risque pour le chef d'entreprise, s'il ne fait pas face à ses responsabilités, c'est 45 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement. Est-ce que c'est au chef d'entreprise d'exercer d'une certaine manière des pouvoirs de police, et je le redis, en s'exposant à des peines tout de même très lourdes, il ne fait pas face. Donc il y a des considérations très pratiques, il y a des considérations d'ambiance sociale au sein de l'entreprise, entre ceux qui pourraient être mis en télétravail s'ils ne sont pas vaccinés, ceux qui ne le pourront pas. Voyons ça demain avec Madame Borne, on sera évidemment constructifs, mais ne faisons pas porter aux chefs d'entreprise le chapeau de politiques publiques qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas forcément de sa responsabilité.
Patrick Martin du MEDEF sur France Info. Et l'épidémie de coronavirus a eu des effets, on le sait, sur les entreprises, par exemple sur les centrales nucléaires en raison de la crise sanitaire. Le calendrier des opérations de maintenance a été retardé. 4 réacteurs nucléaires sont à l'arrêt, ce qui fait craindre des tensions avec l'arrivée du froid. Et la question s'est posée, va-t-on manquer d'électricité cet hiver en France? Barbara Pompili s'est voulue rassurante, la ministre de la Transition écologique qui était l'invitée de questions politiques à la mi-journée sur France Inter. Explique qu'il n'y aura pas de coupure, quel que soit le niveau des températures possibles.
Il n'y aura pas de gros blackout général d'ici à la fin de l'hiver. Nous avons effectivement aujourd'hui trop de réacteurs qui sont arrêtés. Ce n'était pas prévu et donc on se retrouve avec presque 6 gigawatts qui sont arrêtés, qui ne devaient pas l'être. Donc là, j'ai demandé à ce que des salariés d'EDF travaillent pour qu'on puisse enfin ouvrir les réacteurs plus tôt pour pouvoir faire face à d'éventuelles pénuries. Donc ça, c'est la première chose. On redémarre des réacteurs plus tôt. Deuxième chose, on a aujourd'hui des possibilités de travailler avec des entreprises avec qui on fait des contrats pour qu'elles arrêtent de produire pendant des périodes de pointe. Et donc, ça permet d'avoir des marges plus larges. Et puis, si on arrive là vraiment aux limites où il fait vraiment trop froid, eh bien, il y a des possibilités aussi de baisser un peu la tension. C'est quasiment invisible. Mais on aura des études plus fines de RT, donc qui est le réseau d'électricité, au 30 décembre.
Barbara Pompili avec Thomas Snegaroff. Un an de mystère et une marche blanche, colère et émotion palpable cet après-midi lors de la marche blanche en hommage à Delphine Jubilard. On ne lâche rien, justice et vérité pour Delphine, pouvait-on lire sur de grandes banderoles ornées d'une colombe de la paix et d'une photo de Delphine Jubilard, des banderoles déployées par les proches et les amis de l'infirmière et mère de famille de 33 ans disparue il y a un peu plus d'un an. Près de 300 personnes ont participé à cette marche blanche à Cagnac. Les mines dans le Tarn, son village d'où elle s'est volatilisée dans la nuit du 15 au 16 décembre. Son mari, Cédric, soupçonné de l'avoir tué, clame son innocence depuis sa cellule. Les soutiens de Delphine Jubilard, eux, réclament la vérité à l'image d'Emmy, son amie.
Quand est-ce que ce cauchemar va finir? Nous voulons la vérité. On n'a pas le droit d'enlever une maman à ses bébés. Briser le cœur de 2 enfants comme ça, comment peut-on être indifférent? Leur vie s'est effondrée en une nuit. On ne peut pas rester insensible à la peine que ces 2 petits endurent et endureront toute leur vie. Il faut que ces horreurs dites sur Delph s'arrêtent. Il faut que celui qui a fait du mal parle. Il faut que les personnes qui n'osent pas s'expriment, pour elles, mais au moins pour le petit, s'il vous plaît. Je refuse l'idée qu'on puisse ne pas la retrouver. Encore plus l'idée qu'on puisse l'oublier. Delph mérite la vérité. Elle mérite une justice. Elle ne mérite pas de tomber dans l'oubli et elle ne le sera jamais aux yeux de ceux qui l'aiment.
Emmy, propos recueillis par Valentin Dunat. C'est une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux et qui a provoqué une réponse ferme de l'armée. Ces images publiées sur Twitter montrent un véhicule d'un équipage Vigipirate faire des dérapages et rouler à vive allure sur un terrain boueux à proximité d'un camp de migrants à Calais. Bonsoir Mathilde Emmy.
Bonsoir Frédéric.
L'armée qualifie cette scène d'inadmissible et promet des sanctions contre les militaires impliqués.
Oui, la première vidéo postée ce midi par le photographe Louis Witter Observateur montre ce 4x4 pénétrer à vive allure sur un terre-plein boueux, devant des tentes sous le regard médusé de migrants. Après quelques dérapages volontaires et en marche arrière, la voiture s'enlise piteusement dans une ornière. Les militaires de l'opération Sentinelle sortent alors en armes du véhicule pour constater les dégâts. Il faudra quelques heures, l'appui d'un camion de l'armée, mais aussi le coup de main de migrants tirant sur les sangles pour arriver à libérer le 4x4. Cette épopée, racontée presque en temps réel sur les réseaux sociaux, a rapidement fait réagir le porte-parole du ministère des Armées. Hervé Grandjean parle d'agissement inacceptable, en totale inadéquation avec les valeurs de nos armées, écrit-il. Dans un communiqué ce soir, l'état-major des armées condamne et rappelle l'exigence d'exemplarité des militaires. Une enquête de commandement est ouverte avant sanction.
Mathilde Dehimi, merci. À l'étranger, les pays musulmans au chevet de l'Afghanistan. Cette réunion des pays de l'Organisation de coopération islamique est la première grande conférence sur l'Afghanistan depuis la prise de pouvoir par les talibans. Ce sommet à Islamabad au Pakistan, auquel participent également les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni, a pour objectif délicat de venir en aide à l'économie afghane sans pour autant soutenir le régime taliban. Et ce soir, un accord a été trouvé, un fonds humanitaire pour aider l'Afghanistan et aussi les millions d'Afghans menacés de famine. Sur place à Islamabad, Sonia Ghezali.
À l'issue de cette réunion, la résolution adoptée par les pays signataires semble vague. On sait que la Banque islamique de développement sera chargée de mettre en place un fonds humanitaire, mais pour l'instant, les pays participants n'ont pas annoncé le montant de leurs donations à venir. Il faudra donc attendre la mise en place du fonds spécial pour avoir une idée de la valeur totale de l'aide financière qui sera apportée à l'Afghanistan à travers l'OCI. L'argent qui sera récolté sera certainement distribué via des organismes des Nations Unies afin de ne pas aller contre les sanctions américaines. Aucune annonce n'a été faite sur le dégel des fonds de la Banque centrale afghane. La question des droits de l'homme et des droits des femmes a également été évoquée, mais n'a pas été un point majeur de cette réunion, consacrée essentiellement à la crise humanitaire dans un pays qui est en chute libre, selon les termes du secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI pour France Inter.
En France, c'est une loi révolutionnaire selon le collectif Porte mon nom. La majorité veut simplifier le changement de nom de famille et une proposition de loi doit être examinée courant janvier à l'Assemblée nationale. Le nom de famille est notre identité, notre histoire, mais pour certains, il peut représenter un problème et même une souffrance. La majorité veut donc simplifier les procédures pour ceux qui voudraient prendre le nom de leur mère, et cela durant l'enfance pour le nom d'usage ou à leur majorité pour le nom de naissance. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, précise ce matin que pour les majeurs, une fois dans sa vie, nous allons donner la liberté à chaque Français de pouvoir choisir son nom de famille. Patrick Vignal, le député LREM de l'Hérault, portera la proposition de loi à l'Assemblée.
Pourquoi les femmes qui risquent leur vie pour mettre au monde les enfants n'auraient pas le droit de transmettre le nom? Mais dans quelle société nous sommes? Les enfants appartiennent à la fois à l'homme et à la femme. C'est la révolution de la société en ce moment, effectivement, où ce droit à la filiation doit respecter cela. L'égalité. Aujourd'hui, la démarche est lourde. Vous savez, j'ai des cas qui me font poser des questions. Quand vous avez une gamine qui a été abusée sexuellement par son père de l'âge de 3 ans à 6 ans et que la mère, quand le père est en prison, a du mal pour faire changer le nom, mais dans quelle société on vit? Vous savez ce qui est essentiel? Avoir le choix. Donnons aux femmes et aux hommes le choix.
Patrick Vignal sur France Info. (rire) 19h14 sur France Inter, la page sport de cette édition. Bonsoir Winnie Claret.
Bonsoir.
On le disait en début de journal, les Bleus totalement renversés malheureusement par la Norvège.
Léon de Balleuse française qui semblait si proche de l'exploit en première mi-temps et qui rate finalement la dernière marche du mondial en Espagne. 4 mois après leur sacre olympique à Tokyo, défaite 22-29 contre la Norvège. Jean-Pierre Blimeau, vous êtes au cœur du réacteur à Granollers. Les Bleus ont totalement coulé en seconde période.
Oui, du rêve au cauchemar, une première mi-temps de rêve, une deuxième mi-temps cauchemardesque. On se demandera longtemps comment cette équipe de France a pu perdre cette finale qui lui tendait les bras avec plus 6 buts quelques minutes avant la pause et puis ensuite moins 7 à la fin de ce match, 29-22. Une équipe de France qui était euphorique en réussite dans le secteur offensif. On sait que c'est ce qui avait pêché au début de la compétition. En réussite évidemment sur son point fort, la défense, chipant des ballons, marquant but sur but et puis ensuite ensuite, tout s'est déréglé comme une machine qui n'avance plus, avec un côté psychologique assez difficile pour cette équipe de France qui a perdu aussi le match à ce niveau-là. Après la mi-temps, on n'a plus reconnu les Bleus. Certaines ont même fondu en larmes à la fin du match. Réconfortées par les plus anciennes, les plus jeunes avaient du mal à y croire, mais c'est bien la réalité. La Norvège, menée de 6 buts, a réussi à renverser la vapeur et à s'imposer face à une équipe de France qui a complètement déjoué en fin de partie.
Jean-Pierre Blimeau, envoyé spécial de France Inter en Espagne, et la réaction du coach français Olivier Crumbles juste après la rencontre. Écoutez.
Il y a une période où l'équipe de France est très bonne et qui malheureusement gâche beaucoup de choses en fin de première mi-temps. Le tournant, c'est à la fin de la première mi-temps. On a des ballons, on perd des ballons bêtement. On a fait une mauvaise deuxième mi-temps, mais elles ont fait une très bonne. Elles nous ont surpassé dans tous les domaines dans cette deuxième mi-temps. La France reviendra plus forte. C'est aussi une bonne leçon pour les jeunes joueuses. Je crois qu'aujourd'hui, il faut savoir reconnaître qu'on est vaincu par un bel adversaire qui a été bien meilleur que nous.
Olivier Crumbles au micro de nos confrères de Bein Sport.
Alors la joie et la folie sont à chercher du côté du ski français ce week-end, Winnie.
Oui, week-end qui se termine aujourd'hui avec 3 podiums pour les Bleus dans les Mass Start, la dernière épreuve du biathlon. Sous le soleil du Grand Bornand, la station au Savoyard d'où se déroulait cette étape de la Coupe du Monde. La Française Julia Simon signe une deuxième place chez les femmes. Chez les hommes, Émilien Jacquelin remporte la course juste devant son compatriote Quentin Fillon-Maillet. Conclusion de 2 jours parfait pour les tricolores, Jérôme Val.
La fête a duré de très longues minutes. Le podium, une Marseillaise reprise par les spectateurs, une séance de clapping. Il n'en fallait pas plus pour faire couler quelques larmes sur le visage du vainqueur Émilien Jacquelin, presque 4 mois après sa blessure au poignet.
C'est la première fois que j'ai autant d'émotions sur un podium depuis que je fais du biathlon. Je pense que la blessure y est pour quelque chose, parce qu'il y a eu des hauts débats. Gagner ici à domicile, c'était un objectif et je suis très fier de le réaliser. Avec ma manière en plus, c'est ça qui me rend le plus fier.
Devant la famille et les amis, devant 20 000 spectateurs, chaque podium est une source inépuisable d'émotions, raconte Julia Simon, 2 médailles d'argent en 2 jours.
La bonne ambiance est ici, le soleil est ici, franchement c'était une semaine de folie, on ne peut pas arriver mieux. Je suis vraiment, vraiment très contente aujourd'hui.
Au Grand Bornand, les Français ramènent 6 médailles, 20 au total depuis le début de la saison. Exceptionnel, résume Quentin Fillon-Maillet, vainqueur de la poursuite hier.
C'est presque magique hein, quand on voit le résultat de l'ensemble de l'équipe chez les filles, chez les garçons. Il y a eu des podiums quasiment sur toutes les courses, hein, sauf sur notre sprint. Mais bon, ça n'a pas été très loin. Ça met en confiance.
Et preuve que tout va bien, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet occupent les 2 premières places au classement général de la Coupe du Monde. Le Grand Bornand, Jérôme Ball, France Inter.
Le ski français en forme olympique à 1 mois et demi et des Jeux d'hiver de Pékin.
Et on passe au football, Winnie, avec la magie de la Coupe de France.
Deux belles surprises en 32e de finale, comme on n'en voit que dans cette compétition. L'équipe de Lina Montlhéry en National 3, la 5e division française, sort le SCO d'Angers qui évolue en Ligue 1. Le club de l'Essonne s'est imposé 2-0 et file en 16e de finale. L'exploit aussi de Bergerac en National 2 qui élimine le FC Metz. Écurie de l'élite française, victoire au bout des tirs au but grâce notamment à un arrêt décisif du gardien périgourdin Pierre Laborde, qui n'y croyait pas à la fin du match.
C'est énorme, ça fait du bien de voir tout ce monde-là qui est derrière nous. Maintenant, on va continuer à bien profiter, bien se reposer, parce que le tirage est ce soir, mais apparemment, c'est le 2 janvier, le prochain tour. Donc, bien se reposer, bien récupérer et continuer à prendre du plaisir avec ce groupe. C'est un beau cadeau de Noël.
Le gardien de Bergerac au micro, France Bleu Périgord de Thomas Coignac. Pour les autres scores du jour, Marseille a d'abord été mené par le petit poussé du Canet Rocheville avant de s'imposer 4-1. Qualification logique aussi de Monaco qui bat le Red Star 2-0. Victoire de Saint-Etienne 1-0 dans le derby face à Lyon, la Duchère. Et puis on connaîtra donc dès ce soir les affiches des 16e de finale qui se joueront le 2 janvier prochain. Tirage au sort à 20h20 du côté de Valenciennes avant le dernier match des 32e entre les nordistes de Fény-Aulnois en National 3 et le leader de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain. Coup d'envoi à 21h10, Frédéric.
Et au moment où les Françaises sont tout en haut de l'affiche, même si elles ont perdu la finale du championnat du monde de handball ce soir, coup de projecteur sur le sport féminin. Et selon une étude initiée par l'agence Sportsora, spécialisée dans les domaines économiques et sociétaux du sport, l'intérêt pour le sport féminin est au plus haut en France, avec plus de 12 millions de fans en 2021. Cette étude initiée, inédite, porte sur le développement économique et médiatique du sport féminin de haut niveau. Où en est le sport féminin aujourd'hui en France? C'est le long format de ce soir, Vincent Pellegrini.
La division 1 de football, les matchs du tournoi des 6 nations, les grandes classiques cyclistes, le sport féminin bénéficie aujourd'hui d'une exposition télé grandissante et inédite, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir, estime Magali Thesnay, Iznas Dumoncel, déléguée générale de Sport Sora.
On trouve que nos athlètes françaises ne sont pas suffisamment médiatisées, même quand elles ont parfois des performances qui sont à l'égal de celles des athlètes masculins. Quand on voit les chiffres du CSA sur la part du sport féminin dans la diffusion du sport en général, on est sur à peu près un 20%, donc on voit bien qu'il y a un gap encore énorme à combler.
Isaura Tibus est vice-championne du monde et vice-championne olympique d'escrime, un sport peu médiatisé comme beaucoup d'autres en dehors des JO. Pour combler cette lacune, elle a créé son propre média.
Moi, j'ai créé une plateforme qui s'appelle Essential Stories pour parler du sport féminin, mais aussi des histoires qui entourent ces femmes et pas uniquement du sport, parce que le constat était que la performance sportive n'était pas suffisante pour être dans les médias traditionnels. Donc, mon média met en avant ces profils de championnes et leur parcours, leurs histoires, et met en avant les spécificités du sport féminin.
Le sport professionnel masculin génère en France 2 milliards d'euros, le sport féminin 7 fois moins, mais les perspectives de croissance sont très encourageantes, précise Sacha Brunet, qui a dirigé cette étude.
On a fait une projection sur 5 ans et on pense qu'on va avoir une croissance de 89%, donc plus du double des recettes pour un tas de 553 millions d'euros de recettes générées par le sport féminin de haut niveau, aussi bien autour des compétitions, du sponsoring et des médias. Donc le potentiel est là. On a pris plusieurs approches. Tout d'abord, on pense qu'il y a un potentiel aujourd'hui qui n'est pas réalisé par les détenteurs de droits en France et que les prochaines années, grâce à l'investissement qui va être mis de leur part, va pouvoir être réalisé. Deuxièmement, on a regardé aussi les tendances qui ont pu avoir lieu à l'étranger, au Royaume-Uni, aux États-Unis, dans des marchés où il y a eu vraiment une croissance du sport féminin. Et on pense que la France va suivre vraiment ce même cap.
Une croissance qui pourrait être amplifiée par la perspective de Paris 2024, les premiers Jeux paritaires de l'histoire. Pour la première fois, en effet, il y aura autant d'athlètes femmes que d'hommes en compétition.
Où en est le sport féminin aujourd'hui en France ? Vincent Pellegrini.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine et on ouvre l'agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient avec d'abord concernant l'épidémie de coronavirus. L'Agence européenne de médicaments donne demain lundi sa décision sur le vaccin anti-Covid de la société américaine Novavax. Sur l'agenda politique et la campagne présidentielle, Marine Le Pen du Rassemblement national et Fabien Roussel du Parti communiste se déplacent à La Réunion. Premier meeting demain, bien sûr séparé. Sur l'agenda judiciaire, à noter mardi la décision de la Cour de cassation sur les pourvois d'Éric Dupond-Moretti contre sa mise en examen devant la Cour de justice de la République. L'agenda international est lui un peu plus riche. Jeudi, conférence annuelle à Moscou du président Vladimir Poutine et vendredi, élection présidentielle en Libye. Une centaine de candidats en lice dont le très clivant et contesté Saïf al-Islam, le fils du dictateur Muammar Kadhafi. Et en cette période de Noël, rendez-vous plus léger, rendez-vous cinéma à l'agenda mercredi avec la sortie de Matrix Résurrection. C'est le quatrième volet de la série. À noter également la semaine prochaine le lancement du télescope spatial James Webb, le successeur Hubble, une machine d'exception, le plus grand télescope jamais lancé sous la responsabilité de la NASA. James Webb, qui a impliqué plusieurs laboratoires européens, sera lancé et mis en orbite par Ariane 5. La mise en orbite aura lieu vendredi à la mi-journée, Sophie Becherel.
C'est un projet qui a germé dans la tête des astronomes il y a plus de 30 ans. Complexe dans sa réalisation, il n'a cessé de prendre du retard, mais le voilà prêt pour le grand jour. Celui où la fusée Ariane va le mettre en orbite à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Autant dire qu'à cette distance, il ne pourra pas être réparé comme Hubble, son prédécesseur. Hubble a révolutionné l'observation de l'univers, il a permis d'en mesurer l'âge et son taux d'expansion. James Webb, lui, part à la quête des origines. Quand et où sont nées les premières galaxies? Comment se sont-elles formées? Autre thématique de recherche, de quoi sont faites les atmosphères des exoplanètes? Pour le savoir, il faut observer dans une longueur d'onde inaccessible aux yeux humains. Ce n'est pas la lumière visible, c'est la lumière infrarouge. James Webb est équipé d'un miroir géant de 6,50 m, pliable pour pouvoir être logé sous la coiffe. Il est aussi doté d'un pare-soleil de la taille d'un terrain de tennis afin de lui éviter toute lumière parasite. Les Européens, pour leur participation en nature, le lancement et les instruments scientifiques, auront droit à 15% du temps d'observation.
Sophie Becherel, et on terminera la semaine avec les célébrations de Noël et la bénédiction Urbi et Orbi au Vatican du pape François. Et puis, justement, nous sommes à 6 jours de Noël et on va se rendre maintenant au Sable d'Olonne en Vendée chez Jean-Luc et Paulette Berlioz, un couple fanat de décorations de Noël. Il n'y a qu'à voir leur maison et leur jardin. C'est une passion qui dure depuis 21 ans et qui demande beaucoup de préparation, mais qui surtout attire les regards de pas mal de visiteurs. Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas d'équivalent au Sable d'Olonne. Jean-Luc et sa maison qui brille aux couleurs de Noël est interrogé par Mathilde Dehimi.
On avait commencé par un petit Père Noël sur le toit et on a évolué d'année en année. On achète et on fait les vide-greniers, on fait les Emmaüs. Et on a des gens qui nous donnent certains trucs. Ça nous coûte beaucoup d'argent, mais quand on aime, on ne compte pas. Hein. Devant la maison, nous avons la Reine des Neiges avec un tableau magnifique. La petite véranda où là nous avons une caverne avec les ours et les pingouins. Après nous avons la crèche et dans le fond nous avons le roi lion. Et sur le côté gauche nous avons le zoo de Beauval avec les deux pandas, One Lily et One Lulu. On a commencé mi-septembre. C'est-à-dire on a une pièce qui est remplie jusqu'au plafond. Faut tout sortir de la pièce, faire du tri de tout ce qu'on va mettre et ensuite ben on démarre à habiller les poupons. J'ai mon fils qui est perruquier. Qui, lui, fait toutes les coiffures des poupées. Puis après, ben, je commence à installer toute ma petite crèche, qui fait 2,50 m quand même. Faut une quinzaine de jours pour la mettre en place. Faut préparer l'électricité. Il y a du câblage à mettre. Si ça fonctionne pas, ben, faut redémonter pour recommencer. On a fait la fête le 4 décembre. Nous avons eu plus de 1000 personnes. Alors là, ça va être la grosse semaine parce que les enfants vont arriver. On leur remet un petit cadeau. C'est des jouets qui sont offerts par les gens. On remet en exposition comme ça et les enfants qui viennent se servent. Tout le monde est ravi, tout le monde a le sourire, tout le monde est content.
Et ils vous disent quoi les gens ?
Oh que c'est merveilleux qu'ils nous remercient tous les deux avec mon épouse. Comme quoi ça remet de la gaieté au moins dans le coin. Parce que depuis le temps, les rois mages arrivent le 6, donc faut aller jusqu'au 6 janvier.
Et vous, ça vous apporte quoi ?
Oh ça fait du bien, oh, ça fait grand bien. On l'a plus que de bien. Vu ce qu'on subit depuis le temps, tout le monde vient avec le sourire, un grand sourire. On est heureux comme tout, parce que vu le monde qu'on a vu, les gens viennent causer avec nous. On sort devant, on discute avec eux. Le plaisir de voir les gens heureux, c'est formidable.
Et oui, c'est formidable. Et en plus, il y a des petits cadeaux. Jean-Luc et sa maison au Sable d'Olonne qui brille aux couleurs de Noël. Au générique de cette édition, un grand merci à Djenab Sangaré et Gilles Gaillard en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal avec Anne Patinec à la rédaction en chef, assistée de Rachid Zourdani et Souad Bellani. Grand merci à l'équipe et à vous d'avoir écouté ce journal.